l'accueil que vous me faites et de la joie qui est la mienne de pouvoir partager avec vous ces moments. J'ai beaucoup apprécié aussi les paroles qui ont été apportées pendant le culte, qui m'ont conforté aussi dans ce que je voudrais partager avec vous ce matin. Et peut-être aussi vous livrer quelque chose de personnel, mais qui me semblerait, ou en tout cas que je veux être en droite ligne, en parfaite harmonie avec le cœur de Dieu. Vous avez tous, et vous connaissez tous, un homme qui s'appelle David dans la Bible. Est-ce que vous savez comment Dieu appelle David ? Il l'appelle un homme selon mon cœur. Vous savez, je me suis choisi un homme selon mon cœur. Et c'est ce qu'il dit à Samuel, et il s'agit de David. Lorsqu'on évoque David et son histoire, eh bien, on pense tout de suite à Goliath. C'est ce qui nous vient le plus rapidement. Hein. Mais on peut aussi penser à toutes les guerres, les succès qu'il a engendrés. Il a été remarquable devant la persécution. Il a été un homme, un jeune homme vraiment formidable, qui a fait des exploits, et tout cela dans une grande humilité. Et puis, moi j'aimerais vous parler d'un autre pan de la vie de David, que l'on trouve dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 13, ou à partir du chapitre 11 même. Il y a toute une histoire, un pan de l'histoire de la vie du roi David qui est vraiment sombre, qui est vraiment difficile, qui est vraiment douloureuse. Et j'aimerais nous dire que je crois, et cela a été dit aussi ce matin, on n'est pas toujours fort, on n'est pas toujours en pleine forme, on n'est pas toujours au sommet. Et on peut vivre des moments profondément douloureux, profondément difficile. Dans 2 Samuel chapitre 12 verset 11, c'est suite au péché d'adultère que David a commis avec Bathsheba, et puis au travers du prophète Nathan, le Seigneur lui parle et il lui dit: voici ce que dit l'Éternel, je vais faire sortir de ta propre famille le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes femmes pour les donner à un autre, qui couchera au grand jour avec elles. En effet, tu as agi en secret, mais moi, c'est en présence de tout Israël et en plein jour que je ferai cela. David dit à Nathan: j'ai péché contre l'Éternel. Nathan lui répondit: l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Cependant, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cet acte, le fils qui t'est né mourra. Voilà une histoire qui est dramatique. David a plongé dans le péché. C'est d'ailleurs tellement difficile à comprendre et à imaginer, lui qui était si remarquable, comme je vous le disais tout à l'heure, et qui se retrouve dans un comportement aussi odieux que celui-ci et celui qu'il a eu. Vous connaissez l'histoire, en tout cas vous pourrez la relire. Il a un jour, il s'est promené sur le toit de sa maison, de son palais peut-être, et puis il a vu une femme qui était très jolie, et puis il s'est dit, je vais la prendre. Bon, je fais très court. Hein. Il prend une femme qui n'est pas la sienne, et il va ensuite monter toute une cabale, tout un tas de mensonges pour essayer de faire endosser la grossesse de cette femme à son mari. Et puis comme il n'y parviendra pas, il va faire assassiner le mari. Enfin, c'est ignoble. Et la Bible nous raconte des histoires ignobles qui touchent des hommes et des femmes dont la Bible dit aussi que c'est un homme selon le cœur de Dieu. Ça n'a pas empêché Dieu de continuer de penser et de dire que David était un homme selon son cœur. Et si on fait référence au roi d'Israël et de Juda, eh bien c'est bien David qui est celui que tout le monde regarde comme un exemple, comme le héros, comme celui qui vraiment a été un modèle. Peut-on être un modèle tout en vivant des situations dramatiques, parfois même tout en plongeant dans le péché? Je ne dis pas là qu'il fallait qu'il plonge dans le péché. Vous comprenez bien, ce n'est pas là mon sujet. Et j'aurais pu prendre d'autres histoires. Je pense à l'histoire de Joseph, avec son père, enfin, Jacob et ses 12 fils. Enfin, il y a tant et tant d'histoires douloureuses que la Bible nous montre, nous exprime, et dans lesquelles Dieu a été présent, que ce soit dans les moments de victoire, mais que ce soit aussi dans les moments de chute ou dans les moments douloureux de faiblesse. Dieu n'a pas abandonné les siens. Parfois, on me dit, mais c'est quand même bizarre, dans la Bible, il y a des choses dures qui sont écrites. Et moi, je trouve que c'est formidable que Dieu ne mette pas le voile sur des choses qui ne sont pas toujours très belles et qui ne sont pas toujours très, très à sa gloire. Dieu nous parle de l'homme et de l'homme tel qu'il est. On pourrait penser également à Job, non pas que Job ait péché, mais Job, c'est un livre qui est vraiment fort pour nous parler d'un homme en souffrance et dans une souffrance qu'il ne comprend pas. Je me suis posé la question et je me suis dit, mais qu'est-ce que David a fait de moins grave que Saül pour qu'il soit épargné et qu'il ne paye pas le... Vous comprenez ce que je veux essayer de vous dire? En fait, Saül était un homme qui a désobéi et David a aussi désobéi. Mais il y en a un qui a simplement dit au moment où il était face à lui-même et face à son Dieu et face à son péché, il a dit « J'ai péché ». J'ai péché, oui, mais parce qu'elle se promenait toute nue. Non, c'est moi qui le rajoute. Pour voir si vous suivez toujours. Excusez-moi, j'ai besoin. C'est ce que je trouve qui est admirable dans ce que David exprime là. Il est démasqué et il dit « J'ai péché ». Et il n'y a rien d'autre. Et c'est ça que je trouve qui est formidable et qui fait aussi de David un homme selon le cœur de Dieu. Il ne trouve pas et il ne cherche pas d'excuses. Il ne se réfugie pas derrière sa fonction. Il dit « J'ai péché ». Et il savait, en disant « J'ai péché », qu'il était condamnable. Qu'est-ce qui allait tomber sur lui? Il aurait pu dire à Nathan, le prophète, « Écoute, ici, le roi, c'est moi. Alors maintenant, tu sors de ma présence, et puis, éventuellement, le faire assassiner. » Enfin, ça peut se faire aussi. Il n'y a pas dans le « J'ai péché » de David quelque chose qui vient pour adoucir un peu, faire avaler la pilule. Il y a une vraie honnêteté devant son péché. Et je crois, mes amis, que nous pouvons nous aussi être des hommes et des femmes de Dieu, aussi lorsque nous nous trouvons face à notre péché et que nous pouvons le regarder en face et dire « Oui, j'assume, c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait juste ». Alors, maintenant, je vais vous parler de la famille de David. Et c'est dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 12, que nous allons, 13, pardon, que nous allons lire ce texte de la vie de famille de David. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui se nommait Tamar. Amnon, fils de David, l'aimait. Et Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire auprès d'elle la moindre tentative. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge, et il paraissait difficile à Amnon de faire auprès d'elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Shiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, « Pourquoi as-tu l'air si misérable, matin après matin, fils du roi ? Ne veux-tu pas me le dire ?» Et Amnon lui répondit, « J'aime Tamar, la sœur d'Absalom, mon frère. » Jonadab lui dit, « Couche-toi et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, « Je t'en prie, que ma sœur Tamar vienne me donner à manger, qu'elle prépare la nourriture sous mes yeux, afin que je la voie et qu'elle me donne de sa propre main. » Amnon se coucha, il fit le malade, le roi vint le voir. Et Amnon dit au roi, « Je te prie que ma sœur Tamar vienne faire deux gâteaux sous mes yeux et qu'elle me nourrisse de sa propre main. » David fit dire à Tamar chez elle, « Va, je te prie, chez Amnon, ton frère, et prépare-lui à manger. » Tamar alla chez Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, de la pétrie, prépara devant lui des gâteaux et la fit cuire. Puis elle prit une poêle et le servit. Mais Amnon refusa de manger. Il dit, « Faites sortir tout le monde de chez moi !» Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, « Apporte-le-moi dans la chambre et nourris-moi de ta propre main. » Tamar prit le gâteau qu'elle avait fait et les apporta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait pour qu'il mange, il la saisit et lui dit, « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Et il lui répondit, « Non, mon frère, n'abuse pas de moi, car cela est inadmissible en Israël. Ne commets pas une telle folie. Où irais-je avec mon déshonneur ? Et toi, tu serais comme un fou en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, il ne refusera pas de me donner à toi. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Comme il était plus fort qu'elle, il coucha avec elle. Puis Amnon se mit à la détester tout autant. Puis Amnon se mit à la détester de tout son être. Il la détesta encore plus qu'il ne l'avait aimée. Il lui dit, « Lève-toi, va-t'en. » Elle répondit, « Tu ferais un plus grand malheur encore en me renvoyant. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il appela son serviteur personnel et il lui dit, « Renvoyez-moi celle-là dehors, je vous prie. » Verrouille la porte derrière toi. Derrière elle, elle portait une tunique multicolore, car c'était le vêtement dont étaient vêtues les filles du roi, les vierges. Le serviteur d'Amnon la mit dehors et verrouilla la porte. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira la tunique multicolore qu'elle portait. Elle mit sa main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit, « Ton frère Amnon a-t-il été avec toi ?» « Maintenant, ma sœur, garde le silence, c'est ton frère. Ne te soucie pas de cette affaire. » Et Tamar, délaissée, s'installa chez Absalom, son frère. Le roi David apprit tout cela et il fut très en colère. Une histoire un petit peu longue, douloureuse, mais une réalité dans la vie de famille de David. Amnon, c'est le fils aîné. C'est celui qui est donc destiné à prendre la place de roi après son père. Et il nous est dit que Amnon était tourmenté, qu'il était même anxieux à se rendre malade à cause de sa sœur. Nous pouvons imaginer ce qui se passe dans ses pensées, ce qui se passe dans ses émotions, dans ses pulsions. Il est envahi, il est dominé, il les a nourris. Et il en devient malade. Et il trouve pour confident son cousin, Jonadab, dont il nous est dit qu'il était fort habile et astucieux. Je crois qu'il est juste d'exposer parfois ce qu'il y a au fond de nous qui n'est pas forcément facile ou qui n'est pas forcément très facile à exprimer, qui touche aussi le péché. Dans l'Église, eh bien, on va pas commencer à se lever puis à dire « Moi, tiens, cette semaine, j'ai fait tel péché. » Et puis, il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit de comprendre qu'il avait besoin, effectivement, de parler à Amnon. Mais qu'il a choisi quelqu'un qui allait l'aider pour accomplir son péché, son cousin. Et il n'y a rien d'un véritable ami dans cette démarche. Et je ne sais pas si vous pouvez être concerné d'une manière ou d'une autre, mais il y a des amis qui sont... voilà, il y a les payeurs et il y a les conseilleurs et il y a ceux qui sont les payeurs. Hein, donc, c'est pas lui qui va subir les conséquences du péché. C'est véritablement Amnon qui va le payer de sa vie 2 ans plus tard. C'est une bonne chose, je crois, de partager les luttes les plus douloureuses, les plus pénibles dans lesquelles on peut se trouver, surtout si elles deviennent ou prennent une ampleur telle que ça nous dépasse. Ne faisons pas de Jonadab notre confident. Mais en même temps, ne restons pas seuls avec nos luttes, parfois non avouées. Il est bon de trouver celui ou celle avec qui on peut partager même les choses les plus compliquées. Tamar, c'est la demi-sœur d'Amnon, la sœur d'Absalom. Tamar, elle est victime. Elle est complètement innocente dans ce qu'elle a vécu. Elle ne s'attend absolument pas à ce qui lui arrive. Et pourtant, elle est remarquable de lucidité. Je crois que dans sa détresse, elle a eu la bonne réaction, celle de crier. Elle est partie de la chambre de son frère, il nous a dit, en criant, en hurlant. Je vous dis cela parce que je travaille aussi avec une association qui s'appelle l'association Reprend Vie, réseau normand de prévention contre les violences sexuelles. La plupart des gens qui sont victimes se taisent face à ces choses. Ce n'est pas si fréquent que les victimes essayent de ramener leur agresseur à la raison, comme Tamar l'a fait. La plupart du temps, les victimes sont sidérées. Elles sont incapables de réagir parce qu'elles sont tétanisées par l'événement. Et après, elles se culpabilisent en se disant « Mais je n'ai rien dit, je me suis laissé faire. » En réalité, non, c'est faux. Vous ne pouviez pas, elle ne pouvait pas réagir. Elle n'était pas dans un état psychologique qui le lui permettait. Et il y a derrière tout cela aussi souvent une forte culpabilité, un repli sur soi dans le silence. À l'image de Tamar, comme nous venons de le dire, où nous voyons cette jeune femme qui se trouve chez son frère, Absalom, et pour laquelle la vie est brisée. Absalom, c'est le frère de Tamar. Et lui, il dit à sa sœur, « Ma sœur, ton frère a-t-il été avec toi ? » Oui. Eh bien, ne prends pas cette affaire trop à cœur. On peut dire, Absalom lui dit, « Tais-toi. » Et malheureusement, c'est souvent ce que les victimes de violences sexuelles ont entendu. Et Absalom, lui, il va être amorcé comme une bombe à retardement. Pourquoi ? Parce qu'il ne dit rien à Amnon, son frère. Il cache tout. Il n'en parle pas. Mais en plus, il va s'amorcer, oui, comme une bombe à retardement dans la colère, à l'égard de son père, David. Parce qu'il nous est dit dans le texte que David a pris les choses et qu'il fut très irrité, très en colère. Oui, mais où est la justice ? Il y a certaines versions qui disent « Il ne dit rien parce que c'était son fils aîné et qu'il l'aimait beaucoup ». Vous trouvez ça dans la Français courant. Et après la vie d'Absalom, je vous invite à la relire à la maison. Cette histoire, elle va prendre 10 chapitres dans la vie de David, dans sa vie de famille, dans son règne. Non seulement sa famille est touchée, mais en plus c'est lui qui a envoyé Tamar auprès d'Amnon, sans savoir. C'est-à-dire qu'il a été lui-même aussi l'objet de manipulations, de choses tellement douloureuses. Je vous disais, nous sommes tous des hommes et des femmes qui pouvons avoir des vies ou avoir eu des temps dans nos vies où, comme pour Tamar, il y a eu une violence terrible, il y a eu des choses extrêmement douloureuses qui ont été vécues, difficiles, pour lesquels on n'a pas trouvé justice. On ne s'est pas retrouvé dans une situation où on pouvait reconnaître le tort. Tamar, elle reste dans le coin, là. Puis Amnon, il continue tranquillement son petit bonhomme de chemin. Les amis, le péché nous rattrape tôt ou tard dans ses conséquences. Bien des histoires de famille sont larvées, contenues dans le silence. Voilà, le silence. Ce matin, j'ai beaucoup apprécié cette parole aussi qui encourageait à dire les choses. Tu es peut-être pris dans tes émotions. Et puis tu survis avec ça. Parfois, on est dans une situation et puis on se dit, mais ce n'est pas ici, dans l'église, que je vais pouvoir trouver de l'aide. Philippe Yancey, vous connaissez peut-être, c'est un journaliste américain qui a écrit des livres, et notamment, il a écrit un livre sur la grâce. Et il a dit, parce qu'il était jeune chrétien, avec ses parents enfin, engagés, il a dit, j'ai quitté l'église parce que je n'y ai pas trouvé la grâce. Et dans son livre sur la grâce, il exprime justement tout ce besoin qu'ont les victimes, qu'ont les gens qui sont détruits, cassés, d'être accueillis avec leur fragilité, avec leur faiblesse, avec leur drame. L'Église, c'est un lieu où on peut trouver de l'aide, on peut trouver de l'accueil dans nos détresses. Et trop souvent, l'Église a été jugeante. Trop souvent, l'Église a montré du doigt. On dit, mais c'est tais-toi. Eh bien non. Ne venez pas non plus ici au micro pour raconter votre vie. Hein. Mais ne vous taisez pas, mes amis. S'il y a des choses qui, comme pour Absalom, sont là avec une colère qui vous brûle, qui vous dévore quelque part. Et il ne faut pas qu'elles se traduisent par des paroles ou des actes qui seront des paroles ou des actes de mort, comme il l'a fait pour son frère Amnon. David, qui est le père, il est vraiment pitoyable dans cette affaire. Peut-il faire autrement ? Il est quand même le roi, il est quand même le père. Il se tait. Et en se taisant, il a amorcé ce qu'on peut appeler Absalom, cette bombe à retardement. Et pendant des années, Absalom va nourrir une vengeance, il va, parce que son père s'est tu. Il y a peut-être des choses pour lequel le Père n'a rien dit dans nos vies. Ou peut-être a-t-il dit des choses qui nous ont fait mal. Bref, on a eu un piètre père à un moment donné, ou une piètre mère, qui nous a vraiment abandonnés, sur lequel on s'est retrouvé dans pantois, enfin, dans la sclérosée, dans la peur. Au chapitre 14 et verset 28, il est dit « Absalom resta 2 ans à Jérusalem sans voir la face du roi. » Il y a parfois des problèmes à côté de nous, mais le roi David ne voulait pas voir son fils qui avait tué son autre fils. Le problème est là, mais on n'en parle pas. Il n'en parle pas avec son fils. Et plus tard, il est dit qu'au chapitre 14, toujours, il accepte enfin de voir Absalom. Et il l'embrassa, il nous a dit. Très bien, il l'embrassa. Mais en fait, tout ce qui s'est passé, c'est tout. C'est tout ce que... On en reste là, quoi. Et Absalom, eh bien, il va monter tout un stratagème pour faire la guerre à son père. Et il va prendre sa place. Et il va le mettre dehors, il fait un putsch, c'est le coup d'État, par son propre fils. Et il doit fuir, David. N'est-il pas possible que nous puissions être parfois excellents comme David a été dans certains domaines de sa vie, et si, malheureusement, si dramatiquement pitoyable dans d'autres domaines? Pourtant, Dieu continue de dire « c'est un homme selon mon cœur ». Ça ne veut pas dire que Dieu justifie et que ça valide ce qui a été vécu. Mais David a été cet homme qui a su dire « j'ai péché », mais qui n'a pas su gérer le péché qui s'est produit dans sa famille. Pendant que nous chantions tout à l'heure, je me sentais travailler personnellement. Voilà, je viens de Normandie, et je peux dire peut-être, vous savez, moi je suis comme David, dans le sens, j'ai fait des exploits. Vous savez, j'ai été président de l'Église apostolique de France. C'est moi. Je voudrais que mon message, je l'incarne aussi. Mes amis, je vous dis franchement, je passe par des temps difficiles, de dépression, qui ne sont pas liés. Je vous rassure quand même. Hein. J'ai pas pris la femme du voisin. J'ai pas. Non, non. Mais voilà que au mois de mars, on avait mis en place, mis en route un mouvement avec mon épouse, à notre âge de 58 ans, pour partir prendre en charge une église à Pontarlier. C'est un peu plus à l'est que la Bretagne. Et puis, on a dit oui, on a tout mis en place, on a commencé à vendre la maison, on a fait borner le terrain pour que la vente puisse se faire. Et voilà que, à peine on avait dit oui, je tombe en dépression. Et depuis le mois de mars maintenant, je ne suis pas encore totalement remis. Je vais mieux, mais je ne suis pas encore totalement remis. Je ne sais pas pourquoi il a fallu arrêter. J'étais plus capable d'aller assurer une charge pastorale. Et pour vous dire la vérité, j'étais très content de venir ici en Bretagne, mais je redoutais le moment où je devais parler ce matin. Et j'espère, Jean-Marc, que tu feras le tri si jamais j'ai dit des choses qu'il n'aurait pas fallu. Ou... En fait, je me sens très fragile. Et donc, on a fait marche arrière vis-à-vis de la, la, la situation, je suis en arrêt maladie, mais j'ai trouvé des gens à qui je peux parler. Et Jean-Marc est un de ceux avec lesquels je parle. Et Francine, bien sûr, je le dis vraiment avec beaucoup de cœur, je peux parler avec Jean-Marc et Francine en toute transparence. Je sais qu'ils ne me jugeront pas. Et ils savaient que je n'étais pas en forme, mais ils m'ont invité quand même. Il est un peu... Bon, il prend des risques. Mais il est bon. Combien de fois Jean-Marc m'a encouragé? Combien de fois Francine m'a encouragé? J'ai aussi deux autres frères avec lesquels je partage bien. J'ai pas honte. Voilà, je vous le dis, j'ai pas honte. Je suis pas en train de proclamer hey, je suis malade. Non, j'espère que vous comprenez bien. J'ai pas honte. Et je remercie le Seigneur qui m'a donné des frères qui ne sont pas à Absalom, mais qui sont vraiment des pères à la fois P-A-I-E, mais aussi P-E-R-E. Et je voudrais juste terminer en priant et vous dire, ben, surtout, ne restez pas enfermés dans votre souffrance. L'Église du Seigneur est bienveillante. L'Église du Seigneur, elle est aussi celle qui accueille ceux qui souffrent. Parfois, on a dit d'elle qu'elle était la seule armée qui achevait ses blessés. Bon, vous n'étiez pas bien et puis on vous en remettait une à l'Église. Non, il ne s'agit pas de justifier le péché. J'ai péché. Et je ne négocie pas avec le péché. Je ne minimise pas le péché. Je le reconnais, je le regarde en face, je l'exprime, je le confesse. Si tu as péché, et que tu confesses ton péché, il est fidèle et juste pour te pardonner. Parce qu'il y a aussi des frères et des sœurs qui sont pardonnés, mais vivent quand même dans la culpabilité, parce que ça leur semble pas possible d'être pardonné. Si le sang de Christ peut pardonner tous les péchés, il a pardonné les miens. Et je lui suis reconnaissant. Mais le corps de Christ, c'est aussi ce corps qui accueille. Et je vous remercie pour l'accueil que vous me réservez. Prions. Et Seigneur, notre Père, nous venons devant toi. Et nous venons devant toi tel que nous sommes, comme un livre ouvert. Nous n'avons rien à cacher. Nous voulons juste dire, Seigneur, aide-nous à être un homme, une femme, selon le cœur de Dieu, qui sait regarder en face sa propre vie et qui peut faire la part des choses. Seigneur, je te remercie parce que tu es aussi celui qui donne à l'Église des hommes et des femmes vers lesquels on peut se tourner, on peut être accueilli, on peut parler. Merci Seigneur. Bénis l'église de Kevin. Merci Seigneur pour cette église magnifique. Sois loué et sois adoré. Dans le nom de Jésus. Amen.